Et les vers de terre, ils vivent cachés. Peut-être sont-ils heureux. À peine la motte de terre est-elle retournée par la bêche du jardinier qu'ils surgissent de leur galerie invisible.
Gitrural, tiens. Voilà un métier d'avenir pour les agriculteurs.
La PAC, ça fait 40 ans que ça dure. Et ça fait 40 ans que les petits se font bouffer.
C'est très bien, chérie.
Bientôt, pour élever des vaches, il faudra faire l'école hôtelière.
Vous étiez là? Bah oui. Je vous ai pas entendu entrer.
Ah, c'est l'avantage de la moquette, par rapport au poil de vache. On n'entend rien.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller trop vite et de marcher dans l'herbe. Avec aujourd'hui à la technique Charles Danet et assisté de Stéphane Combe, c'est Christophe Imbert qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur. Figurez-vous qu'il avait été un temps question de contrôler la qualité de l'air des crèches et autres écoles maternelles. Comment réagiraient en effet les parents si l'air des dortoirs ou leur chère tête blonde ou brune font la sieste et que cet air-là n'était pas aussi pur que celui des alpages? Eh bien, sans doute pour ne pas une nouvelle fois affoler les populations, Ségolène Royal a décidé de ne pas donner suite à ce projet initié par la précédente majorité. Bon, il est sûr que l'air intérieur peut se trouver jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur, ce qui tout de même force l'admiration, et qu'à Paris, la moitié du temps, l'air ambiant n'est pas du tout terrible à respirer. À tel point que l'OMS s'en est émue. Ah, ce sont des grands sentimentaux à l'Organisation Mondiale de la Santé. Franchement, il manque pas d'air, hein. Alors qu'il suffit simplement d'ouvrir la fenêtre pour diluer les émanations de formaldéhyde de nos maisons, de les diluer dans le bon vieux monoxyde de carbone produit par nos voitures. Alors un conseil, les petits loups, préparez votre avenir. Ne dites surtout pas que poumons nous faire, et non, et entreprenez sans broncher, dès l'âge de 5 ans, des études de pneumologie et d'allergologie. S'il n'y a pas d'avenir dans la bronche, il y en a dans cette branche. Un marché formidable s'ouvre à vous, l'air. Voilà l'avenir, et ceci jusqu'au dernier soupir. Autre point positif à mettre à l'actif du Conseil général du Tarn et du gouvernement, le barrage de Sivens, vous en avez entendu parler dans le Tarn, donc barrage qui se fera autant avec le concours des bulldozers qui décapent que des CRS qui matraquent. Ah, bah c'est ainsi, pour faire avancer le progrès, à chacun ses outils. Quoi qu'il en soit, afin de favoriser sans cesse une agriculture assez polluante, le maïs irrigué, pour ne pas le nommer, une forêt et une zone humide de certaine importance patrimoniale disparaîtront sous les eaux, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Noyer une zone humide, il fallait quand même y songer. Bonjour cher Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Jessou.
Je suis ravi de vous accueillir parce que cette fois-ci, vous n'êtes pas simplement chez nous comme intervenant régulier parce que vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle « Cessons de ruiner notre sol », mais quand même, on a cette actualité, on en a beaucoup parlé sur France Inter et ailleurs, l'écotaxe donc merveilleusement noyée dans la Seine. Donc ça va nous coûter quand même pas mal de millions déjà avec Ecomove, premier point. Et puis surtout, on ne va pas avoir donc de rentrée pour les infrastructures, entre autres ferroviaires, infrastructures portuaire, maritime, etc.
Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Le report modal, c'est-à-dire faire passer les marchandises du camion au train ou au fleuve, réclamait 400 millions d'euros pour développer les infrastructures, pour creuser un canal Seine-Nord. Ben finalement, ils n'auront rien du tout. Je rappelle que dans cette histoire, les transporteurs routiers, au départ, étaient pour. Que la Fédération nationale du transport routier, au départ, était pour. Et c'était face aux atermoiements perpétuels des pouvoirs en place qu'elle a fini par être contre, parce qu'elle s'est dit « il y a anguille sous roche ». Ben voilà, c'est un renoncement de plus, c'est une catastrophe prévisionnelle à venir. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va taxer le diesel, mais pas le diesel des routiers. C'est-à-dire que le litre de diesel, pour les particuliers, pour vous et moi et nos auditeurs, va prendre 2 petits pourcents.
2 centimes.
Ah, c'est 2 centimes.
C'est 2 centimes. Voilà,
2 centimes.
Oui. Mais ça pourrait peut-être 2% aussi.
C'est 2 centimes, ouais, effectivement. Ouais, ça, ouais. Donc, mais pas les routiers. Donc, ce sera. C'est pour payer les infrastructures dites écologiques du report modal. Oui. On va taper toujours sur les mêmes, c'est-à-dire sur le tout un chacun, sur l'automobiliste. Non, mais, c'est magnifique.
Mais ça, c'est pas l'écologie punitive, on est bien d'accord, c'est ça.
Non, c'est du socialisme.
Voilà, c'est ça. Donc, OK. Mais écoutez, donc, on vous retrouve, cher Frédéric, dans quelques instants avec Cessons de ruiner notre sol. On s'intéresse à ce que nous avons sous les pieds. Mais nous avons aussi des choses formidables dans les oreilles, oui, absolument, sur France Inter. Donc, nous avons Arnaud, et ça, on aime.
Je les aime tous, comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. la vie est belle. J'y pied pas cher. La vie est belle. J'y pied pas cher. J'ai connu un rappeur avec une chaîne en or. Il crie motherfucker, même quand tu dors. Tout le monde cherche la vérité. Ils chantent les mêmes tubes d'été. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher.
Inter. CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Vous le savez, le Belge ou la Belge, eh bien nous aimons cela, nous, sur France Inter, et donc aussi dans la musique avec Arnaud. J'espère que vous allez bien. CO2 Mon Amour, nous parlons des sols avec vous, Frédéric Danhé. Vous venez de sortir donc ce nouvel ouvrage, Cessons de ruiner notre sol, aux éditions Flammarion. En France, 26 mètres carrés de terre fertile disparaissent chaque seconde. On peut raccrocher, malheureusement, avec l'actualité, avec les inondations qui ont eu lieu donc un petit peu partout. C'est sûr qu'il y a des phénomènes, on va dire, exceptionnels, mais qui seront sans doute pas exceptionnels demain. Mais malgré tout, là-dessus, les sols ont un rôle à jouer et peut-être qu'ils ne les jouent plus.
Oui, effectivement, c'est un événement dit Cévenol, c'est un événement météorologique dont la fréquence augmente peut-être avec le changement climatique, peu importe. Ce qui est certain, c'est que la probabilité et la gravité d'une inondation augmentent avec la vitesse de l'eau. L'eau qui tombe, si elle tombe sur du macadam, elle va beaucoup plus vite rejoindre la rivière qui ensuite va déborder plus vite. Si l'eau tombe sur une prairie, elle est absorbée en grande partie et son écoulement se fera sur un temps très long jusqu'à la rivière. Donc derrière la question des inondations, mais le Xynthia c'était pareil, hein, au final on a imperméabilisé des zones sur lesquelles auparavant ne poussaient que des moutons. Derrière la question des inondations, il y a fondamentalement la question de l'usage des sols. Quand on imperméabilise un sol, que ce soit en y apposant, en le recouvrant de macadam ou en le transformant en gazon, le gazon, ce n'est pas terrible non plus pour retenir l'eau, eh bien, il faut s'attendre à voir le ruissellement augmenter. Le ruissellement, c'est de l'eau qui galope. Voilà.
Alors, Frédéric, ces sols, on le sait, ne sont pas forcément en pleine forme. Mais ce qui est assez, je dirais, miraculeux en France, c'est que nous sommes la seconde puissance agricole au monde, la première puissance agricole européenne. Donc, pays de paysans ou bien de fantasmes de paysans. On parle d'agriculture, mais on parle très rarement de sol. Ça commence à venir doucement, mais c'est récent.
Ben les premiers qui en ont parlé, c'était les époux bourguignons il y a une trentaine d'années. On en reparle.
Qui ont sonné le toxin,
à juste titre.
Qui étaient en banc d'ailleurs aussi, enfin en rupture avec l'INRA.
En rupture avec l'INRA, ils ont quitté l'INRA pour des raisons qui leur appartiennent. On en parle depuis 8 ans, depuis la publication d'un rapport de l'ONU qu'on appelait le Millennium Assessment, qui donnait une valeur financière aux actifs naturels, dont les sols. Et on reparle des sols depuis ce moment-là. Oui, c'est un mystère pour moi, un paradoxe. On est la deuxième puissance agricole du monde, vous l'avez dit. On est un pays dont la richesse, fondamentalement, est une richesse paysanne. Sinon, on aurait été un pays de migrants comme les Anglais. Et on ne s'intéresse pas au sol. D'ailleurs, on ne s'intéresse plus aux paysans. Enfin, aux agriculteurs. On est dans un pays d'ingénieurs qui vit dans une économie de services. Et tout ce qu'on achète en fruits et légumes vient des hypermarchés. Le premier légume qu'on vend en France, c'est la salade en sachet. Hein, c'est...
Ah oui,
voilà.
Ah, c'est ça le premier.
C'est ça. Et ce qui se développe le plus, c'est ce qu'on appelle la quatrième gamme, c'est-à-dire les légumes préparés, les carottes déjà coupées. Ou... Voilà. Donc on a une rupture de fait avec les réalités naturelles. Le monde agricole, on ne veut plus le voir parce qu'on est un monde urbain et tout ce qui nous rattache aux bêtes réalités matérielles, on l'oublie. Et puis les agriculteurs, dans notre imaginaire collectif, payent toujours, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les sociologues et les anthropologues, payent toujours le poids d'une prétendue collaboration avec les Allemands.
Oui, parce qu'ils auraient vendu du beurre aux Allemands.
Ils auraient vendu du beurre aux Allemands. Et il faut revoir les actualités de l'époque. Hein. Les agriculteurs étaient accusés d'affamer le peuple en 1946 et ça a permis, ça a aidé le gouvernement de l'époque, de Gaulle. Ça a accéléré, son obligation faite aux agriculteurs de se moderniser pour devenir des citoyens comme les autres. Ça a sauvé les agriculteurs de la misère, mais ça les a transformés en agriculteurs, en consommateurs et en agents de production normaux. Donc on est coupé des réalités du sol.
Tout simplement, un sol, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a entre la roche et l'air, a priori.
C'est ça, c'est l'interface, c'est une pellicule, c'est un épiderme, c'est la peau de cette petite pomme qui est la terre. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est le seul écosystème qui s'auto-renouvelle. C'est le seul écosystème qui fabrique sa propre matière.
C'est un cimetière productif.
Exactement, c'est un cimetière productif. Le lapin abandonné par le chasseur, il est ingurgité par toute la faune et la microfaune du sol, ainsi que les champignons, et il est transformé en engrais pour les plantes. C'est le seul écosystème qui sait faire ça, et donc de cet écosystème, nous dépendons totalement, parce que sans lui, il n'y a plus de vie, et sans lui, il n'y a plus d'aliments.
Alors Frédéric Danhé, on est très souvent dans un monde manichéen. C'est-à-dire qu'on va vous dire, d'un côté, faut faire du bio, de l'autre côté, c'est le productivisme chimique, fermer le banc. Bon, fort heureusement, il y a quand même beaucoup de nuances. Alors, il y a ceux qui se rangent dans le camp du « le sol n'est qu'un support de culture qui est là et qui va durer après nous ». Et puis, de l'autre côté, les sols sont morts, ceux qui ne le sont pas vont disparaître et on aura ruiné notre avenir. Bon, est-ce que c'est aussi simple que ça? Et d'ailleurs, que représente aujourd'hui, on va dire en France, pays agricole, l'érosion des sols? Enfin, est-ce qu'on a beaucoup de sols dégradés?
Oui, on a des sols dégradés, on a des sols fatigués, on n'a pas de sols morts. Les gens qui vous disent « les sols sont morts », c'est faux. Il n'y a plus grand-chose sous la Beauce, hein, sur le sol de la Beauce, qui est totalement grumeleux. Mais il reste toujours, il y a de la vie encore. Et cette vie, si on la laisse travailler en quelques années, elle redécouvre son sol et elle le transforme en ce qu'il était avant. Voilà. Alors, après, le débat, il est toujours manichéen. En France, c'est toujours pour ou contre. Donc, si vous n'êtes pas conventionnel, c'est que vous êtes bio. Si vous n'êtes pas bio, c'est que vous êtes conventionnel. Et entre les deux, on est un peu perdu. In fine, je vais vous dire... Après avoir fait cette enquête auprès de beaucoup d'agriculteurs, les conventionnels et les bio sont très proches l'un de l'autre. Leur rapport au sol est identique. Pour eux, un sol, l'agriculture bio, la seule chose qui la différencie du conventionnel, c'est l'usage des intrants chimiques, engrais, pesticides, herbicides. Mais le travail du sol est le même. Or, on sait aujourd'hui que ce qui a fortement dégradé les sols, ce n'est pas les pesticides, c'est avant tout le labourage trop profond, trop fréquent. Et entre les deux, il y a une agriculture dite de compromis que sont en train de découvrir des agriculteurs et qu'ils sont en train de mettre en place des marginaux d'aujourd'hui qui sont en train de se développer.
Et on va justement rejoindre dans le département du Gers, Jean Humeau qui est... peut-être, vous allez nous dire, Jean, où vous êtes précisément là actuellement. Où êtes-vous, Jean?
Je suis dans le département du Gers, dans le canton de Lombès, à Montalet exactement, là. Et là, je suis au milieu d'un champ de couvert végétal que j'ai semé cet été, avec des radis fourragés, du tournesol, des pois fourragés, de la gesse, un peu de tout ça. Et là, je suis au milieu de radis fourragés qui font 1,70 m, 1,80 m de haut.
D'accord, donc on va quand même essayer de ne pas vous perdre, Jean. Mais ce qui nous intéresse bien, c'est de savoir en fait quelle méthode vous avez fait évoluer pour justement les sols, parce que vous étiez parti, on va dire, sur des méthodes tout à fait conventionnelles. Et que faites-vous aujourd'hui?
Du conventionnel, moi je suis passé à l'arrêt du labour en 2007. Depuis là, j'essaye de travailler mes sols en conservation, c'est-à-dire faire revivre mes sols, remettre la matière organique dans mes sols et avoir de la vie pour faire que les cultures se portent mieux, quoi. Hein. Au maximum, je couvre mes sols par des couverts végétaux ou par des cultures. Et de là, j'améliore l'activité biologique de mon sol.
Jean Hameau, pourquoi en fait vous avez fait évoluer vos pratiques ?
Attendez, parce que j'ai le tracteur qui redémarre là et il va y avoir du bruit autour des oreilles.
Ne vous inquiétez pas.
Voilà, ça y est, ouais. Parti. Ce qui m'a fait changer, c'est que ça faisait un moment que je cherchais des solutions, moi, céréalier pur, on va dire. Je suis en céréales, que des céréales, pas d'élevage. Mm-hmm. Donc j'avais un problème de matière organique dans mes sols récurrent, qui devenait de plus en plus récurrent, qu'on arrivait à maintenir, mais vraiment en malaise avec les résidus végétaux. Donc je cherchais toujours une solution pour augmenter ma matière organique dans le sol, et je n'avais pas trop de solutions sans élevage. Et un jour, j'ai entendu M. Frédéric Thomas parler de couverture végétale, et là, j'ai dit, mais voilà, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on arrive à faire, quoi. Après, bon, c'est pas facile, mais il faut s'y mettre dedans, et de ce jour-là, voilà, je me suis mis au couvert végétaux. Et j'essaye de faire un maximum de couverture de sol par les couverts végétaux.
Alors, quels sont les gains que vous avez ? Est-ce que vous gagnez du temps ? Est-ce que vous gagnez de la pénibilité ?
Gain de temps, je veux dire, le gain de temps, c'est dans le tracteur que je l'ai gagné, puisque depuis labourer, déjà, je passe beaucoup moins d'heures dans mon tracteur. Je passe beaucoup plus d'heures, comme on était en train de faire là, juste maintenant, en train de regarder ce qui pousse dans les champs, de ce qu'on a semé, voir comment ça pousse, comment le sol réagit avec une bêche, on fait un trou, on regarde dessus aussi, et on calcule ce que ça a apporté, on pèse des matières vertes, ce qui nous donne des éléments de matière organique et des éléments fertilisants redonnés au sol pour la culture. L'économie, elle est plus au niveau du temps passé dans les champs à regarder ce qu'on veut faire, ce qu'on a fait, plutôt que de travailler le sol avec du matériel, quoi. On y est aussi à travailler du sol, mais beaucoup moins qu'avant, quoi.
D'un point de vue économique, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, on s'y retrouve même beaucoup, quoi, puisque je pense, j'avais fait un calcul il y a 2 ans de ça à peu près, où c'est que j'avais diminué de moitié ma consommation de fuel, quoi.
Et je ne pense pas que vous ayez forcément envie de revenir à l'ancien système, c'est-à-dire que maintenant ça fonctionne bien.
Ah oui, tout à fait. Non, du tout, je ne reviens pas à l'ancien système, même si on a des fois des parties où c'est qu'on se trompe, où c'est qu'on fait des bêtises, où c'est que ça ne marche pas à 100%, mais bon, on essaye de rattraper, on essaye de savoir pourquoi, mais je ne reviendrai pas en arrière. Maintenant que je suis parti là-dedans, je fonce là-dedans comme il faut, et l'avenir nous le dira, mais bon, moi, j'ai vadrouillé pas mal dans France, voir des gens un peu partout, et je vois que ceux qui sont dedans, il n'y en a pas beaucoup qui reviennent en arrière. Quoi. Ouais.
Et des collègues à vous, donc, vous interrogent et se posent des questions pour eux aussi évoluer et changer ?
Au début, c'était un peu bizarre, parce que bon, les gens ils me regardaient un peu qu'est-ce qu'il fait, parce que on n'a pas l'habitude. Mais sinon, de plus en plus, je vois quand même qu'il y a des demandes d'informations. Les gens viennent voir, ils se posent des questions. Alors, quand ils viennent, on va voir dans les champs, on explique ce qu'on fait. Bon, après, c'est pas la majorité des agriculteurs, mais une partie d'agriculteurs qui se posent des questions. Comment on pourrait faire pour, justement, éviter l'érosion? Parce que, bon, ça, c'était un de mes buts aussi, de voir de la terre partir à coups d'orage. Bon, ça commençait à m'énerver. Donc, on a trouvé cette solution, et cette solution est très remarquée de partout, quoi.
Jean, là, je profite de votre présence parce que le Gers est un très, très beau département. Racontez-nous autour de vous, c'est comment ? Donc, c'est du collinaire ? Qu'est-ce que c'est ?
Ah oui, nous, c'est pas la plaine de la Beauce. Hein. Le Gers, c'est vallonné, quoi. Hein. On monte, on descend. Hein. Ouais. C'est vallonné, mais bon, pas avec de grandes pentes par rapport à d'autres endroits dans le Gers où c'est qu'il y a des pentes un peu plus importantes, quoi. Ouais. Mais c'est pas le plat pays, quoi.
Et vous avez les Pyrénées au fond de vous
ou... Tout à fait. On voit les Pyrénées, bon, quand il n'y a pas les nuages. Là, ouais, aujourd'hui, il y a des nuages, donc... Quand il n'y a pas les nuages, on voit la chaîne des Pyrénées, pratiquement pas en totalité, parce qu'elle est tellement longue, mais quand on voit les Pyrénées, bon, c'est bon signe. Quoi.
Et oui, bien sûr, ça veut dire signe de beau temps. Grand merci à vous, Jean Hameau, donc agriculteur dans le Gers. Jean Hameau, vous êtes à Lombesque. Et c'est tout à fait intéressant, parce que donc, vous aviez interviewé cet homme-là, Frédéric Denry, avec bon nombre d'agriculteurs qui passent à autre chose, qui réfléchissent véritablement sur leurs pratiques. S'ils le font tous. Et puis, on est un peu indécis parce qu'on est quand même aussi parfois un peu coincé. Mais ça veut bien dire qu'on n'est pas dans le manichéisme dont on parlait tout à l'heure.
Du tout. Moi, je n'ai pas voulu aller voir d'agriculteurs bio. Non pas que je n'aime pas les agriculteurs bio, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'eux sont des militants.
Oui.
Voilà. Moi, j'ai voulu aller voir des agriculteurs conventionnels, entre guillemets, banals, qui se sont mis à faire autre chose, essayer de comprendre pourquoi. Et le calcul, il est simple. Il est à la fois économique et c'est le calcul du temps. Les intrants chimiques... Le gasoil coûte de plus en plus cher. Dans le compte d'exploitation, ça pèse de plus en plus.
Tu disais, oui.
Voilà. Plus le temps passé à se casser le dos. Ça revient systématiquement, le temps passé à se casser le dos dans le tracteur. Et donc, ils ont essayé. Ils ont levé un peu le soc. Ils ont retiré le versoir. Ils se sont aperçus qu'ils consommaient 2 à 3 fois moins de gasoil et qu'ils consommaient beaucoup moins de temps et que ce temps pouvait le consacrer à autre chose. À quoi faire ? Avoir le sol qui change à partir du moment où ils le travaillent moins. Ils ont essayé. Ils ont regardé. Ils se sont dit que... Zut, je laboure moins, donc je vais avoir plus d'adventices, entre guillemets, c'est-à-dire de mauvaises herbes qui arrivent. Qu'est-ce que je vais faire pour les éradiquer ? Alors, je mets un peu d'herbicide, et puis ensuite, je fais du, ce qu'on appelle du semis sous couvert, c'est-à-dire que je plante d'autres graines en même temps que mes graines de plantes de vente. Et ça veut dire qu'en rotation, après ma culture que j'aurai moissonnée, mon blé par exemple, je vais planter autre chose de façon à ce que mon sol soit couvert en permanence, qu'il ne soit pas une patinoire pour la pluie, à ce que ça fabrique de la matière organique pour la vie du sol. Et c'est ça qui est passionnant. À partir d'un bête calcul économique, ces gens-là restent des productivistes, mais ils s'aperçoivent que le productivisme leur pèse, leur coûte, et que dès lors qu'ils veulent couper une partie de ces coûts, ils sont obligés de s'intéresser au sol. Et en fait, ce qu'ils m'ont tous dit, c'est qu'en m'intéressant à mon sol, je redécouvre mon métier, parce que c'est moi qui choisis les solutions. C'est une agriculture de compromis. Et c'est passionnant.
Frédéric, il y a aussi un signe qui est très important, que vous avez bien pointé. C'est le monde extrêmement conservateur du vin en France qui en est maintenant à discuter l'orthodoxie agrochimique. Et donc, ça veut dire que la révolution, elle n'est peut-être pas si loin que ça, même chez les Girondins.
Ah bah bien sûr, il y a de plus en plus de vignes, des très grands crus à la fois dans le Bordelais et dans le Bourguignon, y compris en Champagne, on ne laboure plus. Alors les sols des vignobles sont des sols pauvres de toute façon.
Quoi qu'il arrive,
bien sûr. Mais ils sont tellement imprégnés de produits chimiques que le peu de vie qui reste a du mal à respirer. Et donc on travaille moins le sol, on le désherbe moins, aussi parce que ça coûte beaucoup plus cher.
Et puis il y a une demande aussi.
Et puis il y a une demande. Et puis c'est un peu un retour à l'essence même de ce qu'est la conduite d'une vigne, la conduite d'un chai. Auparavant, l'élite du vin conspuait le bio, conspuait le sans labour.
Je voyais ça dans la revue des vins de France qui se moquait des écolos de la grappe. Là, ils ont fait leur coming out là-dessus.
Ils ont fait leur coming out il n'y a pas longtemps. Ils ont consacré un numéro assez marginaux qui ne le sont plus. Ça, plus les agriculteurs productivistes conventionnels qui veulent toujours être productiviste, qui change d'attitude vis-à-vis du sol, ça prouve qu'une révolution est en marche. Et que derrière, vous avez des syndicats comme les jeunes agriculteurs, par exemple, qui soutiennent cette affaire-là.
Donc vous comprenez pourquoi nous ouvrons ce livre « Cessons de ruiner notre sol » de Frédéric Danvé. Et nous ouvrons une autre page musicale. Alors sinon, vous n'hésitez pas, franceinter.fr, donc c'est le site, CO2 Mon Amour. Vous laissez vos messages, vous discutez entre vous, aucun problème, c'est fait pour. Intervenez. The Ink Spot.
I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart, I have but one. Other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you'd feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world.
I don't want to set the world on fire, honey. I love you too. just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down deep inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know, baby, ain't nobody else gonna do it.
I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you'd feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. Just want to start a flame in your heart.
Ne me dites pas que vous n'aimez pas. C'est pour vous, mais bien sûr qu'on l'a choisi aussi un peu pour nous, je veux dire. Merci à Thierry Lupin donc d'avoir sorti de sa boîte à chaussures ou de son grenier donc ce Ink Spot qui est merveilleux.
Moi, j'aime me lever tôt avec la lumière, aller pisser dehors contre un arbre, putain, et l'embrasser.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Nous sommes avec Frédéric Danhé, Le Sol, mais nous sommes aussi avec vous. Nous sommes aussi reliés par un machin qui s'appelle le téléphone. Figurez-vous, ça marche encore. 01 56 40 40 35. Une petite série de messages.
Bonjour Denis, bonjour chers auditeurs. Persuadé que l'énergie nucléaire n'est pas la solution miracle à la surproduction de CO2. La loi dite de transition énergétique commence à être débattue à l'Assemblée nationale, mais pour le moment, hélas, ce n'est qu'une voie royale vers le statu quo en matière de nucléaire. Aussi, ce mercredi, des antinucléaires obstinés et grenoblois ont manifesté devant les salons nucléa et ultra-propres, SIC, comme si le nucléaire pouvait être propre. Ils ont affirmé que, non, Grenoble n'était pas la capitale européenne du nucléaire. Et cela notamment en hissant le drapeau nucléaire non merci en haut du mât du drapeau olympique des JO de 68. Et maintenant, à vous, Parisiens, de continuer de porter la flamme le 11 octobre à Paris pour protester contre la vitrine mondiale du nucléaire, contre le salon World Nuclear Exhibition qui se tiendra au Bourget à partir du 16 octobre. Ni Hiroshima, ni Fukushima, ni de CO2, mon amour. C'était un vieux loup de Grenoble.
Bonjour à tous. Donc à l'occasion des 40 ans de la réserve naturelle du bout du lac d'Annecy, le Conservatoire d'espace naturel de Haute-Savoie, Aster, ainsi que l'Association des Amis de la réserve naturelle et la commune de Doussard vous proposent de venir participer à une semaine de festivités qui se déroulera du 13 au 19 octobre sur la commune de Doussard. Diverses activités seront proposées autour de sorties nature pour découvrir la faune, la flore et le patrimoine culturel de la réserve naturelle. N'hésitez pas à venir vous renseigner sur le site internet aster.asso.fr ou sur le Facebook en tapant Aster. Nous vous attendons nombreux.
Eh bien bonjour, je suis sidérée à écouter l'interception sur les produits dits phytosanitaires, d'entendre ce paysan du Cher qui a réchappé in extremis d'un cancer triplement mortel, qui continue d'utiliser ces produits, ça me laisse sur le cul. Je vous embrasse, continuez, au revoir.
Merci à vous, 01 56 40 40 35. Alors justement, à propos de pesticides, c'est ce que vous disiez dans votre livre, Frédéric Danhé. Bon, le vrai problème des sols, on ne dit pas qu'il y a pesticides, ça joue pas, bien évidemment. Mais c'est avant tout pour vous le labour profond. C'est ça quand même le numéro un.
Oui, c'est partout dans le monde, c'est la même observation qu'on fait. C'est labourer trop profond, trop souvent, n'importe quel sol. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut jamais labourer. Il ne faut pas passer d'un dogme à l'autre. C'est que globalement, dans les pays occidentaux, on a labouré des sols qui ne méritaient pas d'être autant labourés aussi profondément. Quand on laboure, en gros, pour ne pas rentrer dans des détails trop techniques, on casse l'équilibre de cet écosystème qui recycle la matière organique en matière minérale, azote, phosphore par exemple. Et puis, cette matière organique, on l'oxyde très très vite parce qu'on la met au contact de l'air. Donc, le taux de matière organique chute, la structure du sol est modifiée et la structure de l'écosystème du sol est modifiée. C'est ça avant tout qui crée les problèmes du sol que l'on connaît aujourd'hui. Enfin, c'est très français. En France, on aime bien les jardins à la française, on aime bien les sols avec des sillons bien parallèles. Ça nous rassure.
Et puis c'est Sully aussi, peut-être.
Et c'est Sully, voilà, le labourage est une des deux mamelles de la France. Je ne sais plus ce qu'il avait dit.
Non, mais il avait dit ça quand même.
À peu près, mais oui, sauf qu'on labourait moins profond à son époque.
Alors vous parlez aussi de l'or fumant du fumier, de la bouse de vache aussi. Tout ça, ça fait rentrer de l'azote dans le sol. Quoi.
Mais l'histoire de l'agriculture dans le monde entier, en particulier en France, c'est une histoire du fumier. C'est-à-dire que c'était aller chercher au cul des vaches ce fumier en mêlant ce que les vaches nous restituaient avec de la paille et à mettre ça ensuite sur les terres de production. Et en fait, la grande révolution agronomique du 18e a consisté à mettre des clôtures, des bocages par exemple, ça vient de là, autour des champs, de façon à ce que les vaches ne puissent plus divaguer, ne puissent plus s'en aller. Résultat, les paysans pouvaient récupérer beaucoup plus de fumier qu'ils allaient ensuite mettre sur leurs terres, lesquelles étaient mises en rotation avec des plantes qu'on appelle des légumineuses qui savaient capter l'azote de l'air. Donc le fumier, plus en quantité plus importante, plus ces plantes faisaient que les terres ont été gavées d'engrais naturels et que, à partir du milieu du 18e jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus eu aucune famine en France et en Europe occidentale. La révolution agronomique était là. C'est le maximum, je pense, que l'on pouvait faire avec des techniques habituelles, classiques. L'histoire de l'agriculture, c'est jamais qu'une histoire de fumier et donc de matière organique. Et c'est ça qu'on a oublié en labourant trop profond. On a divisé par 2 à 3 la quantité de matière organique dans le sol.
Ce que je vous propose, c'est de partir dans le département du Tarn, non pas pour aller voir le barrage de Sivens cette fois. On va aller à Péchaudier et là, vous avez une coopérative très intéressante, une SCOP, Rhizobiome, qui s'intéresse, elle, aux zones humides, hein, qui travaille énormément vraiment avec les agriculteurs pour sauver les zones humides du Tarn. Ils y arrivent plutôt pas mal. Bon, sur Sivens, ça, c'est encore une autre affaire. Et on va retrouver Jacques Thomas, qui est donc un homme qui est chercheur, qui est aussi agronome, qui a fait des études absolument dans ce sens. D'ailleurs, il définit très joliment le sol, il dit que c'est une bourrette noire, parce qu'on ne sait pas tout, évidemment, de la globalité du sol. Et donc là, on rentre, il est en train de travailler dans son laboratoire.
Ah, je suis en train de préparer un échantillon de sol pour connaître sa teneur en argile.
Ouais.
Donc, je vais le passer dans le tamis, dans une succession de tamis mécanisés. Et ça va travailler comme ça pour séparer les différentes composition du sol, les égargats minéraux, pour séparer les sables fins, grossiers, les limons, puis les argiles. Alors les argiles, après on ira les doser par une autre méthode.
Oui. Voilà, vous avez différents appareils, vous avez une étuve, je vois.
Il y a une étuve, oui, pour pouvoir sécher les échantillons de terre et puis après les peser, ouais, en éliminant l'eau qui trouble un petit peu la mesure.
Qui est demandeur aujourd'hui ?
Nous, on travaille avec des gens qui ont des projets de restauration d'espaces naturels, pour qui il faut qu'on trouve des solutions. Et donc, on fait beaucoup d'observations sur le terrain, mais on a aussi besoin de revenir et exploiter nos échantillons en laboratoire.
Alors, est-ce qu'on a un sol qui est dégradé parce que trop de labour profond, parce que peut-être aussi trop d'intrants dans tous les sens, qu'est-ce qu'on peut faire là ?
Alors déjà, il faudra être patient parce que ce genre de dégradation, ça met beaucoup de temps à être réparé. Il va falloir faire revenir de la vie dans ces sols. Et beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de laisser aussi du travail aux plantes, au réseau racinaire. Faire en sorte que tout ça puisse travailler, faire en sorte que les lombriques puissent être suffisamment présents et faire leur travail, un travail qui est formidable de brassage du sol.
En fait, vous avez fait d'abord un carottage, peut-être dans un champ, c'est ça ?
On a fait un prélèvement chez quelqu'un, dans une prairie humide, oui, chez quelqu'un qui voudrait remettre en état sa prairie humide. Et nous, ce qui nous intéresse pour savoir si on peut vraiment la remettre en état, c'est la teneur en argile, la perméabilité de ce sol, de manière à savoir comment intervenir pour réaliser les restaurations hydrauliques de cet espace.
Alors, lorsque l'on parle du sol, on sait que l'animal emblématique, vous devriez parler avec Darwin, qui a écrit sur les vers de terre, sur les lombriques. C'est un aérateur, hein, il fait son boulot, il avale. cheval, il transforme. Mais bon, mais il n'y a pas que lui.
Il n'y a pas que lui. Il y a des vraies usines biochimiques que sont les bactéries. C'est probablement les cellules les plus abondantes dans le sol. Et elles font des transformations extraordinaires. Savez-vous qu'on n'aurait pas d'argile sur Terre, ou très très peu d'argile sur Terre, si on n'avait que les phénomènes chimiques qui permettent d'altérer la roche. D'accord. Mais c'est grâce aux bactéries qui vont amplifier cette hydrolyse et cette dégradation des minéraux, qui vont créer quelque chose qui est tout à fait fabuleux, qui sont les argiles, qui ne sont pas vraiment des minéraux, qui sont une réorganisation des atomes en feuillets, et dans ces feuillets vont se cacher les cations qui vont permettre de nourrir les plantes. Pas de plantes terrestres sans argile, et pas d'argile sans bactéries, pas d'accès à l'eau sans champignons, etc. Donc tout ça sur la vie terrestre est lié au sol.
Et pourtant c'est la clé. C'est la clé de voûte.
C'est la clé. C'est la chose qu'on a toujours foulée, mis de côté, parce qu'on appuie dessus. Pour les Grecs, c'est ce qu'on foule du pied. Mais on l'a trop négligé, et maintenant il faut l'aborder dans son unité, dans sa complexité.
Jacques Thomas, donc dans le Tarn de la coopérative Rhizobium, donc c'est son travail absolument au quotidien, il s'intéresse au sol depuis de très très nombreuses années. Dites-nous, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire, mais le sol, peut-être que l'on peut s'en passer, on n'a pas besoin du sol.
Bah oui, on peut produire des tomates et des concombres sous serre, la plupart des tomates et des concombres français sont produits sous serre. Oui, on peut s'en passer, effectivement, on pouvait planter sur des cabosses de cacao, sur la laine de verre, ensuite vous mettez des engrais, des pesticides, vous gavez votre serre de CO2, oui, très bien, sauf que vous pouvez pas produire tant que ça, sauf que c'est un coût énergétique très important, un coût en CO2 très important. Donc c'est un mode agricole qui est de fait condamné à ne pas s'étendre de par simplement son coût énergétique. Et puis, on nourrira jamais 9 milliards de personnes juste avec des serres, c'est pas possible. On n'aura même pas les moyens, encore une fois, en énergie. Non, c'est l'alimentation vient du sol, faut jamais l'oublier. C'est tout bête, mais on l'a oublié.
Ah bon ? Ça vient du sol ?
Ça vient du sol. Même les arbres poussent dans le sol.
Dites donc, c'est
fou. Oui, c'est vrai.
Et dans cet ouvrage aussi, eh bien, vous appelez une mobilisation générale, autrement dit une souscription, pour ériger une statue en l'honneur du lombric, dont on a un peu parlé, et du champignon. Donc, si vous n'attendez pas grand-chose du politique, attendez quelque chose du lombric, quand même.
Absolument. Je n'ai pas parlé des bactéries comme Jacques Thomas vient d'en parler. Non, je me suis focalisé sur le lombric et le champignon. Le lombric, pourquoi ? C'est Darwin, Jacques Thomas l'a dit, Darwin l'a découvert. La redécouverte a montré que c'était un ingénieur fabuleux sans lequel il n'y aurait pas eu d'humanité. C'est lui qui participe grandement à la fabrication de la matière organique du sol. Et c'est la première victime justement des labours trop profonds, trop fréquents. Il n'y aurait pas d'alimentation sans lombric, sans bactéries et sans champignons. Les champignons, de par le fait qu'elles entretiennent des relations extrêmement intimes avec les plantes, et quand ces relations sont brisées, les plantes ont du mal, et dans ce cas-là, elles ont besoin d'engrais. Voilà, la boucle est bouclée.
Alors, nous étions au 19e siècle avec Darwin. Si on passe au 20e siècle, quel est le rapport entre les sols, les raisins de la colère de 1936 ?
Ça, c'est fascinant. On a oublié les sols en France, les Américains ne l'ont jamais oublié. Aujourd'hui, les grands champs céréaliers aux États-Unis sont labourés moins profonds que chez nous, parfois même sans labour. Pourquoi ? Parce que les Américains ont payé le prix d'un labourage trop profond, d'un travail du sol trop agressif. On a tous vu ces images des raisins de la colère, on a tous vu ces images de fermiers obligés de quitter l'Oklahoma ou Dakota.
3 millions, je crois.
3 millions.
Ouais.
Entre les États-Unis et le Canada. On a tous vu ces images de vents de poussière et vous savez, ces buissons qui, détachés, déterrés par le vent, roulaient en boule sur les routes américaines. On a accusé à l'époque un changement climatique. Il y a eu un assèchement du climat aux États-Unis à cette époque-là. Ce que les Américains ont très vite compris, c'est qu'on avait labouré trop profond, beaucoup trop profond, des terres qui auparavant étaient les terres à bisons des Cheyennes, des Indiens des Plaines, lesquels Indiens des Plaines faisaient une agriculture dans leur camp d'été, mais simplement ils fouissaient. Ils faisaient un trou, ils mettaient une graine, un autre trou, ils mettaient une graine. Voilà. On a labouré trop profond et la terre est partie. Voilà. Dans notre mémoire historique, ce qui montre à quel point un travail du sol trop fréquent sur un sol trop fragile entraîne, c'est la disparition pure et simple des sols. Ça a tellement marqué les Américains, donc ça a inspiré Steinbeck, Springsteen aussi, ça a tellement marqué les Américains que les Américains font plus attention que nous au sol. Voilà, eux, ils ne l'ont pas oublié. Nous, on n'a jamais connu ça, donc on s'en est pas rendu compte.
Et c'est ça.
Les vers ont joué dans l'histoire du globe un rôle plus important que ne le supposerait au premier abord à la plupart des personnes.
À compter de demain, je ne mange plus mes copains. Je laisse Titi à Gros Minet, je laisse à Donald ses magrets. je ne mangerai plus de niquet d'agneau, ni de friture de Nemo. À compter de demain,
je mange de l'herbe
et du pain.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Avec Frédéric Danhé, nous poursuivons donc ce voyage, cette mélodie en sol et en sous-sol. Et Frédéric, il y a aussi un homme que vous citez dans cet ouvrage, c'est Marc-André Sellos, qui est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. C'est un homme qui était un peu spécialiste des symbioses, hein, c'est ça. Donc il est, il fait de l'écologie, de l'évolution des associations au bénéfice mutuel. C'est un peu technique, mais enfin
c'est ça, Marc-André Sellos, c'est l'as de la symbiose, je tenais à la faire celle-là.
Oui, c'est bien.
C'est l'as de la symbiose. C'est un des grands spécialistes mondiaux de la symbiose entre les plantes et les champignons. Et sans les champignons, les plantes ne pourraient pas vivre.
Et nous vous rejoignons là actuellement avec un certain décalage horaire, Marc-André Sellos.
Alors on est en Australie du Sud-Ouest avec la Société Botanique de France. On est en train d'explorer la flore de la région. Et on est d'ailleurs sur les sols les plus pauvres du monde, des sols très très pauvres en phosphore où pourtant il y a une diversité absolument extraordinaire et sans doute plein de leçons à prendre pour une production végétale moins exigeante en nutriments et en intrants.
Alors ce qui nous intéresse bien aussi sur cette émission sur les sols, ce sont donc les associations. C'est-à-dire que sans les champignons et sans les mycorhizes, il n'y aurait pas de plantes. Racontez-nous.
Oui, alors c'est quelque chose qui marche très bien et du coup on a mis du temps à s'apercevoir de l'importance effectivement des champignons du sol dans la nutrition des plantes. Juste une anecdote. Quand on a essayé de planter des pins en Amérique tropicale ou en Afrique, ils ne poussaient pas. C'est-à-dire que les graines germaient, elles ne poussaient pas. Et les gens ont empiriquement commencé à ramener du sol d'Europe ou des plants déjà germés. Et sans le savoir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramené en fait des champignons du sol qui étaient vitaux, mais vraiment vitaux, pour que ces pins se développent. Et ça, c'est quelque chose qui est vrai pour 90% des plantes. Elles ont besoin de champignons du sol. Bon, sous les pins, par exemple, c'est des choses comme les lactaires, les amanites, les cèpes qu'on a l'habitude de ramasser en forêt, hein, qui sont associés par ailleurs aux racines des plantes, des arbres, et qui les aident à se nourrir.
Et alors Marc-André Sellos, de temps en temps, on voit quand même des vendeurs de poudre de souche de champignons qui vous disent « on va refaire du sol avec ». Ça marche ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, il y a sans doute de très grosses perspectives là-dessous, puisque donc les plantes ne savent pas exploiter le sol. La plupart des plantes ne savent pas exploiter le sol sans ces champignons. Il y a des perspectives intéressantes, mais il faut étudier ça très précisément avant. Et c'est pas parce qu'on introduit un champignon dans le sol que ça marche. Bon, aujourd'hui, ça marche un petit peu avec un champignon qui est la truffe, hein, que l'on sait introduire plus ou moins de succès sous des arbres pour produire des truffes. Il y a quelques méthodes, effectivement, qui marchent. Mais il faut bien regarder le produit avant d'acheter, c'est sûr.
Alors, lorsque l'on parle des sols, aujourd'hui, vous constatez quand même une certaine pauvreté et aussi une certaine érosion des sols. Quels conseils vous pourriez donner, vous, qui aussi fréquentez donc des agriculteurs et qui passe, on l'a déjà dit avec Frédéric Danhé, donc le soc de la charrue, parfois à 50 cm de profondeur.
Alors, ce que je pense, c'est que, bon, on a une agriculture qui a quand même une vertu, c'est qu'elle nous a nourris jusqu'à présent. Mais il faut, pour le futur, imaginer une agriculture qui reprenne plus les voies que les végétaux ont employées depuis 400 millions d'années. Parce qu'on connaît des fossiles de 400 millions d'années qui montrent que déjà à l'époque, ce n'est pas les plantes qui se nourrissent dans le sol. Elles nourrissent des champignons qui, en retour, exploitent le sol pour elles. Et retrouver cette vertu, c'est vraiment important parce qu'il faut bien savoir que quand on met beaucoup d'azote et de phosphate dans un sol, les plantes se débrouillent sans les champignons. Or, ces champignons, ils aident les plantes à se défendre aussi. Ils aident les plantes à se défendre contre les maladies du sol. Et donc, on rend les plantes beaucoup plus vulnérables parce que comme elles n'ont plus les champignons, puisqu'elles se nourrissent toutes seules, elles deviennent la proie plus facile de parasites du sol. Malheureusement, actuellement, les recherches ne se sont pas assez aventurées du côté des méthodes qui permettraient d'utiliser cette logique, je dirais entre guillemets, naturelle, ancestrale dans le fonctionnement des plantes, et on manque encore de conseils rigoureux à donner. On voudrait justement plus de recherches sur les itinéraires techniques qui permettraient demain d'utiliser cette logique qui a fonctionné depuis des millions d'années pour nourrir les plantes, finalement, grâce à des champignons et pas grâce à des apports.
Alors, vous qui êtes vraiment spécialiste de la microbiologie des sols, donc au Muséum National d'Histoire Naturelle, on a l'impression que le sol, comme le disait Jacques Thomas, est une espèce de boîte noire assez formidable. C'est-à-dire que c'est un peu parfois comme à l'image des abysses. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément ce qu'il y a au fond encore. On a des tas de choses à découvrir.
Mais alors, à l'essence des abysses, c'est tout près, c'est en dessous de nos pieds. J'ai des collègues qui me racontent souvent que dans la forêt tropicale, on a jusqu'à 1000 espèces d'arbres par hectare. Et ils sautent comme ça de joie, mais en sautant de joie, ils écrasent un sol dans chaque gramme de sol, Il y a 1000 fois plus d'espèces de bactéries que ça dans chaque gramme. Donc c'est une vraie boîte noire parce qu'on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Mais aujourd'hui, les microbiologistes, notamment grâce aux méthodes utilisant l'ADN, sont capables de voir cette diversité et commencent à comprendre comment cette diversité fait fonctionner les sols et aussi comment elle est mise finalement en péril jusque dans les modes de fonctionnement, hein, jusque dans la diversité des fonctions, comment elle est mise en péril par une agriculture qui finalement n'a pas compris cette logique microbienne.
Pourquoi Marc-André Sellos, vous vous êtes intéressé, vous comme chercheur, au sol ?
Ce qui m'a séduit dans les relations qu'entretiennent les champignons avec les racines des plantes, ce qui m'a profondément séduit, c'est que d'abord, ça explique comment poussent la plupart des plantes, on l'a dit, elles ne poussent pas sans ces champignons. Et deuxièmement, c'était une façon d'approcher la diversité des champignons en comprenant la diversité de leur rôle. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La biodiversité, ce n'est pas qu'une liste d'espèces. Et notamment la diversité de microbes, ce n'est pas qu'une liste d'espèces. C'est tout un tas de fonctions, de mécanismes biologiques et écologiques que remplissent chaque espèce. Et pour le coup, eh bien, les microbes du sol remplissent plein de fonctions autour de nous, du recyclage de la matière organique qui tombe par terre, jusqu'à la nutrition des plantes, plein de fonctions qui sont tout à fait vitales et un peu ignorées parce que ça marche tellement bien, ça se fait tellement tout seul qu'on finit par oublier qu'il y a des microbes derrière et que finalement, sans ces microbes, ça ne se fera pas forcément.
Merci à vous, Marc-André Sellos.
C'est le dragueur des supermarchés, celui qui porte les paniers et qui s'occupe de vos bébés. Le don Juan des ménagères, avec son cœur de camembert, qui marche tout seul quand on s'en sert. Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand.
Nous avons aussi ce thème important dans « Cessons de ruiner notre sol » dans votre ouvrage, Frédéric Danhé. Je dirais sous les pavés, la plage et le sable, mais sous les hypers, il y a aussi la terre, ce qui explique les 26 mètres carrés qui dégagent chaque seconde de notre pays.
Il n'y a pas que les hypers, il y a aussi y a les ronds-points, hein, on aime bien les ronds-points en France.
Il y en a autant que de communes.
Il y a les routes. Et puis il y a les hypers, hein. Il y a en 2013, 1 million de mètres carrés de surface de vente ont été inaugurés en France.
Ah ben ça marche bien alors, c'est formidable.
Oui et non, 1 million de mètres carrés de surface de vente, c'est sans compter les couloirs, les accès, ça fait 3 millions de mètres carrés, ça fait beaucoup.
Les parkings, les entrepôts, les allées, etc.
Et c'est de la terre qui est perdue. Une fois que vous avez une couverture de macadam, comme globalement dans l'histoire récente, on n'a jamais retiré une couverture de macadam, on peut considérer que le sol, à l'échelle d'une vie humaine, est perdu. Et c'est ça de perdu pour l'agriculture, alors que l'agriculture a besoin de plus en plus de terre pour produire.
C'est-à-dire qu'on comprenne bien, elle aura besoin de plus de terre parce que donc la demande va vers moins de pesticides, plus de produits, on va dire, entre guillemets, naturels, et donc
demande,
plus de surface.
La demande et les pratiques des agriculteurs, pour l'instant encore marginaux, c'est de travailler moins le sol, à tout point de vue, travailler chimiquement, mécaniquement, de travailler moins le sol. Donc les rendements chutent de toute façon dans les premières années, et pour les compenser, ou bien on attend, ou bien alors on augmente les surfaces. Mais ces surfaces vont aller en diminuant, de toute façon, parce que l'étalement urbain continue, parce qu'on demande aux agriculteurs d'accueillir des trames vertes et bleues, hein, vous savez, ces corridors écologiques. On leur demande tout et son contraire. Donc la surface disponible diminue alors qu'on veut manger toujours mieux, moins cher. Ce n'est pas possible. Il y a une demande de terre de plus en plus importante, même en France. Et il y arrivera un moment où cette demande de terre devra s'imposer à la demande de parking et de lotissement.
Alors, afin de ne pas déambuler dans la galerie du pessimisme médiatique, on va relever les manches, peut-être aussi donc le soc un peu de la charrue. Et là, il y a pas mal de solutions que vous donnez. D'ailleurs, on en a déjà entendu. Oui. Hein. Favoriser le crédit d'impôt recherche et les rémunérations pour services rendus, trouver des solutions innovantes pour les agriculteurs qui veulent changer de modèle. À l'échelle de l'Union européenne, élaborer une directive sol avec des objectifs précis de qualité biologique et physico-chimique, et puis sanctuariser les sols agricoles.
Oui, c'est très amusant parce que vous savez, quand il y a un projet immobilier quelconque, si jamais il y a une zone naturelle ou une forêt, tout le monde se lève de sa chaise et hurle. Quand c'est un sol agricole, tout le monde s'en fout. Le sol agricole, malgré son importance, est considéré juste comme le réservoir de l'étalement urbain. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, compte tenu de tout ce que l'on vient de dire, les sols agricoles devraient être de fait sanctuarisés, devraient être de fait protégés selon leur pouvoir agronomique. Et ça, il n'y a que l'État qui peut en être le garant. Et je vais même plus loin, c'est que compte tenu de l'état des sols en France, en quantité et en qualité, dans les zones les plus tendues, les sols devraient être considérés comme un bien commun. C'est-à-dire, je vais employer un très gros mot, nationalisés. plus personne ne devrait pouvoir être propriétaire du sol. C'est pas une idée soviétique. C'est le cas en Suède, c'est le cas en partie en Hollande, et ça s'applique même dans l'immobilier. On en a déjà parlé dans cette émission. On ne devrait plus pouvoir s'approprier un bien dont dépend notre alimentation et surtout l'alimentation des générations de demain.
Oui. Donc vous dites encadrer nationalement le marché de la terre agricole, oui, afin qu'il échappe à la spéculation en étant rangé parmi les biens communs.
Et voilà, exactement, c'est ça.
Et puis aussi épandre nos déchets, parce qu'on en a quand même un certain nombre sur nos sols, plutôt que de les mettre dans des centrales à méthanisation.
Mais le problème, c'est très bien, les unités de méthanisation, c'est parfait, sauf qu'à un moment, si elles se développent un peu trop, elles vont rentrer en concurrence avec cette matière organique dont nos sols sont trop pauvres. Il ne faudrait pas détourner trop de fumier, trop de déchets d'usines d'épuration vers les usines de méthanisation. Il faudrait en ramener en priorité sur les sols. Et je vais même au-delà. Je pense que les citoyens que nous sommes pourrions apporter régulièrement nos composts et le compost des villes aux agriculteurs qui manquent de matière organique dans leur sol. On pourrait imaginer une journée nationale des sols. Et ça nous permettrait psychologiquement de retrouver notre lien avec le sol, de fabriquer notre compost. Parce que quand on fabrique son compost, on voit que le sol est vivant.
Oui.
On voit que le sol est vivant. Donc voilà, protéger le sol sous deux aspects. Le premier, le protéger légalement, c'est ce qu'on vient de dire, bien commun, etc. Et puis le protéger en lui apportant de la matière organique. Et puis troisième chose, le protéger en foutant la paix aux agriculteurs, en les aidant à faire une agriculture de compromis. Voilà, ce n'est pas le tout bio ou ce n'est pas le tout conventionnel, ce sera le tout je veux conserver mes sols. Et ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de se fédérer entre eux, ils ont besoin d'information, d'argent aussi. Et nos impôts devraient les aider à changer d'itinéraire de culture.
Bon, bah écoutez, on espère que la PAC vous entend, si j'ose dire. Donc, il y a beaucoup d'espoir dans cet ouvrage.
Oui.
Cessons de ruiner notre sol aux éditions Flammarion. Et puis, on vous souhaite à toutes et à tous un excellent compost, hein, Frédéric Denrée.
Excellent compost.
Mais pas avec votre bouquin, enfin pas tout de suite.
Ah non, non, pas.
Faut lire d'abord. Hein, voilà. ce sera mieux.
Plus une couverture pelliculée, non, ça, c'est pas bien.
Non, c'est pas bon.
C'est un peu polluant.
Voilà. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce CO2 Mon Amour, vous l'avez compris, avec Charles Danet à la technique. N'oubliez pas, hein, franceinter.fr, CO2 Mon Amour, donc le site. Vous déposez aussi vos messages au 01 56 40 40 35. Vos messages sont les bienvenus. Merci à Stéphane Combe, à Christophe Imbert qui réalisait l'émission, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2. Je vous retrouve, alors ce sera demain 19h54 pour l'Atu du Mont Petit Loup. Bol de nature, c'est le vendredi matin, une petite bouffée de nature à 6h25, et puis bien sûr la semaine prochaine avec ce magazine de nature et d'environnement.